Le ping-pong.
Ah si, j'y ai déjà joué, mais je suis nulle.
C'est un sport où on joue dehors ou à l'intérieur et on a une raquette avec une balle et on joue.
Bonjour à toutes et à tous, quelle joie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen. Chaque après-midi, 2 heures pour décrypter notre époque à travers ses mots, ses tendances. Et aujourd'hui, un sport qui justement redevient tendance, le ping-pong. Grâce aux succès internationaux des frères Lebrun, mais aussi plus récemment avec le nouveau film de Timothée Chalamet, Marty Suprême, que Manon a vu en avant-première à New York et elle a adoré. Le tennis de table bénéficie d'un regain d'intérêt en France et dans le monde. Pour en parler, on aurait pu la jouer petit, en se contentant d'inviter soit Timothée Chalamet, soit les frères Lebrun, soit parfois les trois à la fois. C'était pas compliqué à caler, on est l'émission la plus écoutée de France à cette heure-là. Un coup de fil à passer et c'est comme Olivier Rousteing ou Thomas Pesquet, ça, ils sont déjà au maquillage. Mais non, car aujourd'hui les amis, j'ai décidé d'assouvir tout simplement un rêve d'enfant. Celui du petit Matounet qui, l'été, dans la modeste masure de ses parents sur la presqu'île de Saint-Tropez, passait ses après-midi à jouer au ping-pong sur une table Décathlon qui portait sur sa tranche la signature, forcément à la main, j'en étais sûr, non pas des frères Lebrun ni de Timothée Chalamet qui n'était pas né, mais de la légende française du tennis de table des années 90, champion du monde 93, vice-champion olympique 92. Oui, ma table de ping-pong était signée Jean-Philippe Gatien. Et devinez, où est Jean-Philippe Gatien cet après-midi? Il est avec nous, j'en suis presque fébrile d'émotion. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
Zoom Zoom Zen. Noël.
Tout ça ouais. Est vrai.
Vous n'étiez pas que bébête à cet âge-là, j'étais aussi, comme disait Manon.
J'étais aussi joueur de tennis de table. Bonjour Jean-Philippe Gatien.
Bonjour et merci pour cette intro. Là, c'est moi qui fait la journée. Je peux repartir là ou pas? Oui, il faut que je reste.
Restez bien. Quentin okay. Nous fera peut-être sa fameuse imitation à la bouche de la balle de ping-pong. C'est donc un grand moment pour moi après toutes ces années de rencontrer enfin le champion qui avait dédicacé à la main ma table de ping-pong. Vous êtes l'un des meilleurs pongistes français de tous les temps et je le disais, vice-champion olympique en 92, champion du monde 93, 13 fois champion de France en simple, mais aussi médaillé de bronze au championnat du monde 95, 97 et aux Jeux olympiques de 2000 en double. Le tennis de table connaît depuis les JO de 2024 un regain d'intérêt phénoménal en France grâce aux frères Lebrun, mais aussi ailleurs dans le monde avec la sortie en France du film Marty Suprême avec Timothée Chalamet qui raconte l'histoire du champion américain Marty Reisman. Alors, qu'est-ce qui a fait que du ping-pong, un des loisirs les plus populaires en France et aussi dans le monde? Pourquoi les clubs de tennis de table font le plein en ce moment? Quels sont les bienfaits de ce sport, ses qualités? Qui était vraiment ce Marty Reisman? Vous allez tout nous raconter, juste le temps de vous présenter deux athlètes hors normes qui ont chacun dans leur sport respectif repoussé les limites physiologiques du corps humain. Je vous présente Manon Mariani, vice-championne d'Île-de-France de cycling, catégorie pratique occasionnelle.
Je ne sens littéralement plus mes jambes.
Et Quentin, lui, qui fut longtemps l'espoir du canoë-kayak normand, jusqu'à l'accident de pagaie fatale. Comme quoi, la reconstruction faciale a fait de grands progrès. Manon Mariani, Quentin lui, bonjour.
Bonjour.
Allez, bonjour.
Bonjour à tous.
En pleine forme.
Bien sûr.
Vous êtes bien.
On est remonté.
On est très bien.
Unique. Jean-Philippe Gatien, comment vous êtes tombé dans le tennis de table? Est-ce que c'est comme tout le monde, en vacances ou dans un autre cadre que vous avez découvert le tennis de table?
Alors non, moi c'était l'entourage familial. Mon père était passionné de ce sport. J'avais un frère aîné qui jouait également. Et mon père était tellement passionné qu'il avait aménagé une salle spécifique dans la maison familiale. De tennis de table avec un peu de recul, avec un peu d'hauteur de plafond, avec un bel éclairage. Donc en fait, tous les ingrédients étaient là pour que je démarre dans ce sport. Je commençais vers l'âge de 4-5 ans.
4-5 ans? Attendez, pardon, mais à 4-5 ans, on est à la hauteur
oui,
de la table?
Oui, on est un peu petit, on a un petit... On se surélève un peu, on fait des jongles contre le mur, okay. Des exercices d'habileté, etc.
Mais puis ça ensuite, peut commencer très jeune.
Oui, ça peut commencer très jeune. Hein. Les clubs de la Fédération Française de Tennis de Table accueillent le baby-ping dès l'âge de 4 ans. Ouais.
Le baby-ping?
Le baby-ping, oui, c'est joli.
C'est trop mignon, ça.
Oh, il y a des petites tables, il y a des mini-tables pour les enfants.
Il y a des raquettes
plus petites
oui, parce que les manches, sinon, sont un peu gros pour les petites mains des enfants. Sinon, c'est les mêmes tables et c'est pas un entraînement très structuré, c'est plutôt de l'habileté, des jongles, des trajectoires, mais ça commence assez tôt. Ouais.
Face à vous, Jean-Philippe, lui, quand il était enfant, il n'avait pas de table de ping-pong et pour cause, ce sport n'avait pas encore été inventé. Mais le temps a passé, il a grandi et un jour, au Club Med, il a découvert le tennis de table, sport dans lequel il a très vite excellé. Pas étonnant, car c'est une discipline qui exige finesse et technique.
Oh, c'est rageant ça.
Ah oui, tu comprends, il joue comme un pied, il n'a pas un jeu fin. Non, c'est très difficile de jouer avec un type qui est moins fort que toi. Hein.
Avec un type plus fort aussi, on a.
Oui, c'est vrai.
Ouais, c'est vrai.
Série de la carrière, laissez-moi deviner. J'adore. Vous êtes un pongiste hors pair.
Non, j'aime bien.
Ah, vous aimez bien. Et vous jouez. Ah, oui. Oh, mais il faut vraiment qu'on...
L'été...
Vous avez dit hier que vous étiez assez fort, quand même.
Non.
Est-ce que vous avez votre raquette?
Devant Jean-Philippe Gassien, il ne dit plus rien.
Vous avez une table à la Maison de la Radio ou pas?
Non, mais non, j'aurais voulu qu'il y ait
une... Alors si, je crois qu'on en a une dans la salle de sport. Il y a une salle de sport.
Dans le bureau de la présidente.
Si vous arrivez à trouver la salle de sport, elle est très très loin. Je ne vais jamais trouver personnellement. Cyril, racontez-nous le ping-pong, d'où ça sort.
Imaginez le bruit le plus reconnaissable du monde. Quentin. Continuez. Ah, c'est beau.
C'est magnifique.
La balle qui s'en va. C'est le sport de camping par excellence, le roi des garages et des salles de pause dans les start-up. Et quand on voit la domination écrasante de la Chine aux Jeux Olympiques, on se dit que forcément, ce sport doit être une tradition asiatique millénaire. Eh bien non. C'est en Angleterre que le ping-pong a vu le jour, à la fin du 19e, dans les salons feutrés de la haute bourgeoisie victorienne. En Angleterre, on joue au tennis, mais comme il pleut souvent, et que les aristos n'ont pas envie de se salir, ils improvisent une partie sur une simple table de salle à manger. Le filet, une rangée de livres, les raquettes, des couvercles de boîtes de cigares, la balle, un bouchon de champagne taillé en boule. Voilà un jeu de salon pour digérer.
Et quand est-ce que ça devient plus sérieux, Cyril ?
En 1901, grâce à l'anglais James Gibb, de retour d'un voyage aux États-Unis. Dans ses valises, des petites balles en celluloïde. Non seulement elles rebondissent bien, mais en plus elles font un bruit particulier. Ping quand ça tape la raquette et pong quand ça tape la table. Quentin ? Voilà. Et voilà, le nom est arrivé. Quant à savoir pourquoi on parle de ping-pong et de tennis de table, une histoire de gros sous. La marque J. Jack Henson dépose le nom ping-pong et interdit d'utiliser le mot si les sportifs n'utilisent pas leur matériel. Donc le ping-pong devient tennis de table, et tant pis si dans notre jardin, on dit toujours ping-pong. Alors d'où ça sort ce sport? Eh bien d'un passe-temps d'aristocrate devenu le sport populaire par excellence, et ce n'est que le début de notre histoire.
Merci Cyril-Louis.
D'où ça sport.
Et vive le sport sur Antenne 2.
Encore une bonne référence.
On n'a pas droit à l'erreur.
Moderne.
Sauf
l'invité est roi, mais nous en revanche, pas droit à l'erreur.
Okay. Enfin, sauf si l'invité parle de quelque chose qui est dans le quiz. Parce que vous l'arrêtez.
C'est vrai que c'est la rare fois où je me permets d'arrêter
tous les jours.
Non, mais c'est vrai, depuis quelque temps, je me permets. C'est vrai, j'ai pris la confiance et j'interromps l'invité.
C'est mal poli avec l'invité.
J'essaierai de rester très poli avec Jean-Philippe, qui est fort sympathique. Jean-Philippe Gassien, 250 000 110 licenciés dans les différents clubs de tennis de table aujourd'hui en France. Il n'y a jamais eu autant de pongistes dans notre pays. Les adhésions sont exponentielles. C'est évidemment l'effet direct du parcours des frères Lebrun aux Jeux Olympiques de Paris. Comment vous expliquez que ces deux jeunes pongistes ont suscité autant de vocations? C'est que le tennis de table ou c'est aussi leur personnalité, leur histoire peut-être?
Je pense que c'est un ensemble de choses. Effectivement, il y a la qualité des deux frangins. Leur précocité, leur performance. Ils répondent maintenant présents sur tous les grandes compétitions, JO, championnat du monde, championnat d'Europe. Je pense qu'il y a une histoire familiale, la fratrie qui est très forte derrière. Je pense que ce sont des individus qui sont accessibles, qui sont simples, qui sont authentiques.
Mais c'est fou que deux frères soient arrivés à ce niveau-là.
Oui. Puis ils sont arrivés, personne ne les a vus arriver, ils sont arrivés à une vitesse folle. Il y a encore 3-4 ans, ils étaient 1000-1500 au classement mondial. Et Félix, à l'approche des Jeux de Paris 2024, il était dans le top 5 mondial. C'était hallucinant. Enfin, ça a été colossal.
Mais vous qui avez été champion du monde, qui vous savez comment on franchit les dernières étapes pour arriver aussi haut. Qu'est-ce qui s'est passé chez eux? C'est le travail ou c'est juste le talent pur qui s'est exprimé en fait? Ou c'est juste qu'ils ont travaillé encore plus que les autres?
Je pense qu'ils ont travaillé très tôt, ils ont travaillé beaucoup. Ils ont du talent, ils ont de la créativité. Dans un sport comme le nôtre, qui est, vous l'avez dit un peu en filigrane, largement et outrageusement dominé par un pays qui est en l'occurrence le pays le plus peuplé au monde.
La Chine,
il faut savoir aussi se réinventer, être créatif. Et c'est vrai que là, depuis tout petit, eux, ils ont développé des possibilités au service, en mise de service, d'être créatif pour aller concurrencer les Asiatiques, et ils le font très bien.
Est-ce que justement les clubs français ont la capacité d'accueillir autant de monde d'un coup ?
Alors, ça a été un gros challenge. Ça avait été un peu anticipé parce qu'ils ne sont pas arrivés qu'à Paris 2024. Ils sont arrivés déjà il y a quelques deux ans avant. Donc, la fédération avait potentiellement anticipé des bons résultats et un afflux massif de licenciés. C'est ce qui s'est passé. La fédé de ping, ça a été la fédé qui a accueilli le plus d'augmentation de licenciés après les Jeux, plus de 23%. Ce qui est quand même colossal. Ça fait plusieurs dizaines de milliers de personnes à accueillir en plus dans les clubs. Donc, voilà, il a fallu que les clubs se structure, fasse preuve d'imagination, parce que des fois, il fallait mettre 4 ou 8 joueurs par table, trouver des exercices un peu ludiques pour qu'on ne dégoûte pas les jeunes enfants qui arrivaient dans les clubs. Mais en tout cas, c'est un vrai challenge. Et même après Paris 2024, l'année d'après, il y a eu encore une augmentation de licenciés. Donc on voit que c'est un sport, vous le disiez Mathieu, qui plaît en ce moment, qui a la mode et qui développe beaucoup, beaucoup de qualité. Je pense que les gens comprennent aussi cet attrait-là.
Marie Debreuer, Marie, cet après-midi, vous nous parlez d'un nouveau projet pour les élèves, une expérimentation sur 3 ans.
Faire de l'éducation à l'alimentation, de la maternelle à la primaire, eh bien moi je trouve ça, et qu'est-ce qu'elle va dire le Maurice Carnavi surtout ? Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien ? Eh bien je trouve ça très bien, voilà, c'est une super initiative, mais j'ai du mal à faire confiance à l'école pour apprendre correctement un truc aux enfants. Mariani, 6 x 7 ?
42.
Ok, Noël, qui a écrit Les Misérables ?
Victor Hugo.
Ouais, mais ça marche pas, vous étiez fort à l'école aussi. La carrière, en quoi l'an 1000 marque-t-il un tournant décisif dans la réforme monastique en Occident ? Il n'y a plus personne, là. Ça vous fait rire, Quentin ? Allez, 20 pompes. C'est super, l'éducation alimentation. Moi, au collège, après les cours, avec ma meilleure pote, on achetait des Kinder et des bonbons Schtroumpf, et on disait que les bonbons Schtroumpf, c'est des antivomitifs quand on avait mangé trop de Kinder. Et tout ça, avant le dîner, bien sûr. L'histoire est malheureusement vraie, mais j'ai quand même l'impression que voilà, c'est vraiment mieux l'alimentation des enfants aujourd'hui. Enfin, nous, quand on était petits, on léchait des couilles de mammouth. Hein, le truc était littéralement une boule de sucre multicolore avec un gros chewing-gum à l'intérieur. Après, bon, quand je vois le gabarit de mon mec à la maison, je me dis que je dois toujours aimer ça, lécher des couilles de mammouth. Mon mec est gigantesque. Et oui, bon, je comprends pas bien pourquoi un journaliste a dit de moi.
De
bigard en léopard. Oui, on dit de moi que je suis bigard en léopard, mais je comprends pas trop parce que j'en porte pas tant que ça du léopard. Pour en revenir aux couilles de mammouth, c'est important. On pouvait les acheter au bureau de tabac avec une cartouche de Pink Elephant, là, les clopes goût sirop de fraise, hein, quelle époque. Heureusement, depuis, j'ai arrêté la clope. Moi, je vape cigarette électronique goût popcorn caramel. C'est cool, j'ai plus aucune addiction, quoi. Pour le programme d'éducation alimentation, moi, j'ai des idées. Peut-être qu'on peut cibler en fonction des régions. Par exemple, à Paris, les enfants ont peut-être besoin d'apprendre que le matcha, c'est pas un des 5 fruits et légumes. En Alsace, il existe d'autres saucisses que les knacks, voilà. Et genre à Mazan, on leur apprend qu'il faut pas mettre de témesta dans la soupe. Enfin, voilà, c'est des idées comme ça. Hein. On brainstorm. De manière générale, il y a plein de trucs de la vraie vie à apprendre aux enfants. On pourrait faire de l'éducation au ménage, apprendre à réparer le flotteur des chiottes, à rallumer avec des pinces une Renault Modus de 2005 couleur chaise que t'as acheté 1000 balles. C'est un exemple. Hein. Ou genre que quand tu fais une demande de prêt à la banque, les intérêts de 3%, c'est pas 3% de la somme totale que t'empruntes. Histoire de pas aussi, apprendre ça, bah, découvrir tout ça à l'âge de tes 30 ans. Hein. Au hasard, j'ai envie de chialer. Pour marquer les esprits, je pense qu'il faut apprendre en chanson. Voilà. Ah. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Et oui, en anglais, ça, c'est entré dans la tête comme dans du butter. Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Et quand on ne sait pas, on garde ses doigts pour soi, la chanson du consentement. Bah ouais, bon, c'est pas hyper efficace, mais elle est restée en tête, quoi. Mais je me dis, pour l'éducation à l'alimentation, une petite chanson, ça pourrait être trop cool, quoi. 3, 4, et je mange la courgette, et pas la saucisse, dans ma petite assiette, y a pas de saucisse. C'est des TCA, si des saucisses j'ai pas, moi je préfère le coca au sirop d'orgeat. Et voilà.
Allez, je crois que je préfère encore Quentin qui chante Niagara. C'est dire. Merci Marie Debreuer. À suivre, comment la religion oriente notre vote ou comment on vote selon notre religion. C'est selon. Quentin vous a demandé votre avis sur la question. C'est juste après The Easy Beats, Friday on My Mind sur Inter. Monday morning feels so bad. Everybody seems to nag me. Coming Tuesday I feel better. Wednesday just don't go. Thursday goes too slow. I'll have Friday on my mind. Gonna have fun in my city. Be with my girl, she's so pretty. She looks fine tonight. She's out of sight to me. Once more, I know I'm nothing else.
Les meilleurs moments de Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël et toute sa bande.
Nos croyances religieuses influencent-elles notre vote Zoom cet après-midi sur cette question avec le rédacteur en chef de Décideur Magazine, Lucas Jakubowicz, avec nous pour son dernier livre, Vote religieux, un tabou français, qui vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. Si on part du principe que la religion peut influencer le vote, on peut donc aussi affirmer que les responsables politiques, et j'ai envie de dire tous les responsables politiques, utilisent la religion à des fins électorales ou pas ?
Oui, évidemment.
C'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce que vous constatez.
C'est ce qu'on constate, c'est ce qu'on constate dans les discours, et puis c'est ce qu'on constate effectivement dans les urnes, ouais.
Il n'y a pas de responsable politique qui prétend aux plus hautes fonctions qui se désintéresse du fait religieux.
Mais en fait, même se désintéresser du fait religieux, d'une certaine façon, oui. C'est s'en intéresser aussi,
oui,
vous
oui,
voyez.
Oui, c'est vrai.
Mais comment, justement, on fait pour réaliser une enquête sur le vote religieux, alors même que les statistiques confessionnelles sont interdites en France ? Ça doit être compliqué.
Alors, dans mon livre, il y a trois parties. Une partie sur les musulmans, une partie sur les juifs et une partie sur les catholiques. Dans les trois cas, j'ai essayé d'identifier des bureaux de vote confessionnels. Alors évidemment, les statistiques cliniques sont sur le papier interdites en France, mais on peut quand même trouver des sources.
Ça peut être facile, parce que c'est deux sujets quand même compliqués.
Oui.
La religion et le vote.
Oui, mais en réalité, quand on cherche, on trouve.
Vous êtes appuyé sur quoi, du coup ?
Alors, par exemple, si on prend les juifs. Les juifs, il y a un livre très intéressant qui est sorti en 2016, qui a été écrit par Jérôme Fourquet et Sylvain Montornard, qui s'appelle « Demain, Jérusalem ». Donc voilà, c'est un livre qui est sorti avant l'irruption d'Emmanuel Macron sur le jeu politique et avant l'arrivée d'Éric Zemmour. Jérôme Fourquet et Sylvain Montornard ont identifié des bureaux de vote juifs. Pour ça, ils se sont basés sur la densité de commerce communautaire, sur, dans les écoles de quartier, le nombre d'enfants qui vont voir des patronymes juifs, sur, dans la ville en elle-même, vous savez, il y a toujours les carnets roses. Si on sait que les juifs sont à peu près 1% de la population et que dans les mariages ou les naissances de la ville, on est dans 30%, on se dit, là, en fait, on a de la probabilité d'avoir un survote juif, donc on va creuser. Alors moi, j'ai repris les statistiques de Fourquet et Montornard. J'ai rajouté quelques villes pour avoir des bureaux de vote juifs. Par exemple, j'ai rajouté Neuilly-sur-Seine ou Levallois, sachant que depuis 2016, il y a un phénomène qui est totalement passé sous silence, qu'on appelle l'allié intérieur. C'est-à-dire que beaucoup de juifs de banlieue populaire quittent certains quartiers, se regroupent dans d'autres. Typiquement, Neuilly, c'est totalement le cas. On voit qu'il y a de plus en plus de juifs, par exemple, scolarisés dans les écoles. Donc, on va regarder Neuilly. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, sur les bureaux de vote juif, c'est que dans ces bureaux de vote juif, vous avez des villes qui sont plutôt pauvres. Par exemple, la petite Jérusalem à Sarcelles. Vous avez des communes qui sont plutôt classe moyenne. Par exemple, Saint-Brice-sous-Forêt. Et puis, vous avez des communes qui sont beaucoup plus riches, type Neuilly-sur-Seine ou Levallois-Perret. Eh bien, le vote est exactement le même, peu importe notre niveau d'études et donc peu importe aussi notre niveau de revenus. Pour les musulmans, en fait, j'ai repris la méthode de Fourquet-Montornard et je l'ai élargie en fait aux zones où habitent potentiellement beaucoup de musulmans. J'ai rajouté aussi des articles, des enquêtes, des verbatims dans lesquels les concernés eux-mêmes disent que effectivement il y a plus de mixité et qu'ils sont dans des zones où il y a que des musulmans.
Mais donc on est face à une fragmentation très importante et on est la religion fragmente l'électorat français même. D'un point de vue où les gens vivent, en fait. Ils vont vivre dans des endroits très différents.
Mais oui, tout à fait. Mais si vous prenez, par exemple, exemple très important ou très intéressant. Vous regardez la carte des commerces cachers à Marseille. Il y a 20 ans, il y avait des commerces cachers un peu partout dans la ville. Aujourd'hui, il y a le même nombre de commerces cachers.
Mais au même endroit.
Enfin, mais ils sont tous concentrés au même endroit. Alors maintenant, on se dit, OK, il y a probablement beaucoup de juifs qui vivent là. On va un peu prendre la loupe et puis on va regarder, en fait, dans ces bureaux de vote, quel est le comportement électoral. c'est le bureau de vote de la ville où Éric Zemmour fait ses plus hauts scores, et c'est un des seuls bureaux de la ville où il va dépasser Marine Le Pen.
Et ce qui est fascinant dans votre livre, c'est que tout le monde se positionne par rapport à ce vote religieux. Si on prend la stratégie de LFI, qui est souvent accusée de draguer comme ça l'électorat musulman, même si l'expression est un peu vaste, stratégie qui reviendrait de loin, puisque vous vous rappelez les propos de Mélenchon, il y a quelques années, ils auraient été interprétés comme de l'islamophobie par ses propres partisans aujourd'hui. En oui. fait, il est allé par là à cause de l'irruption d'Éric Zemmour. Enfin, comment ça s'est passé ?
D'abord, c'est très rigolo dans votre question parce qu'elle est totalement française, dans le sens où vous dites on l'a accusé de communautarisme. Mais dans plein de pays,
on aurait dit c'est super.
On n'aurait pas dit c'est super, mais on aurait dit c'est comme ça.
Ouais.
Ce qui prouve qu'on a tous en fait un tabou intériorisé. Et vraiment, le but de mon livre, c'est de donner un coup de pied dans la fourmilière et dire ok, il y a du vote religieux, il y a du vote communautaire. Mais en fait, il faut l'intéresser, enfin, il faut l'expliquer plutôt que le cacher.
Alors, mais que pense vraiment Jean-Luc Mélenchon au sujet de l'islam ?
Bah, il faudra lui demander, mais vous voyez qu'il a un peu un tropisme aujourd'hui, lui et ses troupes. Dès que quelqu'un dit quelque chose, on va dire de pas forcément de méchant, mais de réservé sur l'islam ou l'islamisme, tout de suite, lui-même et tout son parti vont cyberharceler la personne, dire qu'elle est d'extrême droite, qu'elle est islamophobe, qu'elle est fasciste, etc. Vraiment, ils sortent vraiment la sulfateuse. Sauf que objectivement, Jean-Luc Mélenchon a tenu des propos en 2015 ou 2016 qui, aujourd'hui, s'il les entendait, il lâcherait la meute sur
lui-même.
Sur lui-même, vous voyez.
Ouais. Sur quoi ? Sur le voile, notamment ?
Bah, sur le voile, si vous voulez. Regardez, c'est très marrant. Enfin, très marrant. Non, en vrai, c'est pas marrant, mais c'est frappant. Vous prenez le jour où Gabriel Attal souhaite interdire les camis et la baïa dans les écoles publiques. Jean-Luc Mélenchon parle de nouvelle guerre de religion. Sauf que en 2015 ou 2016, je sais plus, il est invité à la télé, il doit parler du voile à l'université, et il dit texto, je paraphrase, mais c'est ça, le voile c'est juste un tissu sur la tête, quand on est professeur d'université, on a le droit de pas avoir des élèves qui sont déguisés en afghans, en hurons ou je ne sais quoi, donc j'invite les étudiants à dire aux étudiants de voiler, enlève ce torchon, tu m'offenses avec ton comportement.
D'accord, donc on est dans le pur opportunisme politique.
Ah bah totalement. Totalement, et du reste, c'est ce que je montre dans mon livre, il y a deux dates qui sont totalement sous-estimées dans l'histoire politique contemporaine, septembre 2017 en ce qui concerne le Rassemblement National, et novembre 2019 pour le virage communautariste de LFI.
Lui, il n'a qu'un seul dieu, l'argent. Raison pour laquelle il a toujours voté pour les candidats qui lui en confisquent le moins possible. Alain Madelin, en son temps, le regretté Alain. Aujourd'hui, il cherche
mais
encore.
Arrêtez, hein, les balivernes.
Vous n'avez pas trouvé lui encore de...
Il a quel âge, Alain Madelin ?
Déjà, je pense qu'il a 80 ans.
Ouais.
Mais il s'est présenté une seule fois en 2002, j'étais pas en âge de voter. Et je me demande s'il a même pas fait... Il a dû faire à peine 4%. Arrêtez avec ça, enfin.
Quentin, en attendant de trouver chaussures à votre pied en politique, on a bien compris que c'était compliqué pour vous.
Oui, oui.
Vous êtes allé interroger les passants sur cette question du vote religieux.
Ah, et puis je vous avoue que dans la rue, deux sujets absolument pas tabous à aborder, la religion et la politique. Essayez, vous allez voir, c'est fameux. Alors j'erre comme une âme en peine quand Anne, la soixantaine, auditrice de l'émission, accepte de me répondre.
Waouh, le vote religieux. Waouh, c'est chaud bouillant en ce moment. Regardez ces news, enfin regardez Trump, on est le peuple élu. Non mais il se prend pour qui, espèce de connard là ? Non, excuse-moi, j'ai un tas de gros mots. Non, enfin moi je suis pas d'accord. Enfin il faut vraiment rester neutre, laïque. Mais regardez ce qu'en fait De Villiers, la religion. Enfin je sais pas, c'est effrayant. Il faudrait qu'ils relisent les évangiles, hein, tous d'ailleurs.
Au bout de la rue, je vois cet homme qui passe un coup de téléphone, pantalon bleu foncé, pull bleu ciel. Il porte une petite chemise qui dépasse, une kippa est posée sur sa tête. Il s'appelle Daniel, bonjour.
Bonjour.
Daniel, vous avez quel âge ?
65 ans dans 5 jours.
Il est restaurateur, il était en ligne avec un fournisseur qui va le rappeler. Essayons avec lui
le vote religieux. Mélenchon en premier. Il a visé l'électorat musulman. De toute façon, j'ai jamais voté les filles. Jamais. Ouais. Je voterai encore moins les filles.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui a touché ?
C'est un parti antisémite. Sans aucun doute, c'est pas un parti anti-sioniste, c'est un parti antisémite. Je fais la différence.
Oui, mais ce qu'on reproche à Mélenchon de viser un électorat musulman, on pourrait aussi le reprocher à un De Villiers ou à un Éric Zemmour avec les catholiques.
Alors, De Villiers, c'est sûr. Mais Zemmour est de confession juive. Hein.
Alors, est-ce que vous pouvez voter pour Zemmour parce qu'il est juif ?
Je pourrais, même si certaines de ses déclarations sont suspectes.
Mais ça ne vous empêcherait pas de voter pour lui quand même ?
Non, ça ne me dérangerait pas. Vous savez, la communauté juive est en train de quitter la France.
Joe, lui, est jeune. Il descend d'un camion blanc au pied d'un immeuble parisien où il y a un chantier. Je lui parle du vote religieux.
Moi, je vote même pas, tu vois.
Ah ouais ?
Bah ouais.
Et vous croyez en Dieu ? En un Dieu ?
Oui et non. Moi, je suis musulman.
Ouais. Ouais. Nous parlons des politiques qui cherchent à séduire certains électeurs en fonction de la religion.
Mélangeons, voilà, lui, il dit, lui, en fait, il joue, peut-être il joue de ça pour mettre des électeurs de son côté.
Bah c'est la bah question oui. qu'on se pose. Est-ce qu'il drague les musulmans
bah
pour
oui.
toi
bah ouais, il s'attire un petit groupe pour avoir plus de pouvoir, plus de machin. Il y en a, ils attaquent les personnes qui ont du mal à faire les fins de mois. Il y en a qui nanana. Chacun essaye de gratter dans ce qu'il peut gratter, machin.
C'est pour qui tu vas voter?
Je vote neutre. De toute façon, c'est toujours la même chose. Les vrais présidents, ils sont plus là.
Les vrais présidents, ils sont plus là. C'est ce que dit Cyril Lacarrière. On arrive à Radio France chaque matin. Ma dernière rencontre, c'est François. Le dos courbé par le temps, les mains dans le dos, il découvre la notion qui nous intéresse aujourd'hui dans Zoom Zoom Zen.
Le vote religieux, oui. Ah, c'est un truc assez touchy, effectivement. Je vois ce que vous voulez dire.
Bah, j'ai l'air un peu à en parler. Hein.
Bah oui, non, bien sûr. Bon, vous voulez parler, effectivement, de... Comment, de la religion musulmane?
Alors, pas non. que. Est-ce que c'est un peu « dis-moi qui tu pries, je te dis qui tu votes », quoi?
Oh, ouais. Là, c'est vraiment la tendance politique. En fait, en principe, les religions sont apolitiques.
Ah oui, mais dans les faits, on pourrait entendre qu'on se rapproche d'un candidat car on partage la même religion, lui par exemple.
Moi, c'est chrétien, disons, catholique, bon, voilà. Bah, je vous cacherai pas que je suis plutôt à droite, étant donné que je suis plutôt vieux, âgé, etc. C'est normal.
Bon. De Villiers, il s'adresse aux catholiques, par exemple. Clairement.
Ah oui, non, bien sûr.
Ça vous dérange pas, vous, ça?
Il s'adresse aux catholiques, il est convaincu. Bah, vous savez, c'est la chouannerie et tout ça. C'est l'histoire. C'est ce qui fait l'histoire de la France. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, on a des racines, et il faut les conserver.
Oui, mais ne peut-on pas opposer à ces racines chrétiennes une France devenue multiculturelle?
Oh bah si, elle peut être tout à fait, oui. Non, ce qui est désolant, c'est l'intégrisme, que ce soit d'ailleurs d'un côté ou de l'autre. Vous savez, je connais moi beaucoup de musulmans avec lesquels je m'entends très bien. Hein. Voilà, je suis pas. Mais effectivement, actuellement, on est en train de politiser les choses, ce qui est désolant d'ailleurs.
Dans la rue, quand on marche, on croise des croyants de toutes confessions. La foi traverse les histoires personnelles, elle façonne des valeurs, des repères, une manière de regarder le monde aussi. Mais quand arrive le moment de voter, Dieu ne descend pas dans l'isoloir, il ne glisse pas de bulletin dans l'urne, il ne choisit pas le candidat. Et c'est peut-être ça la vraie leçon de ces rencontres. Croire n'est pas voter, quoique.
Merci Quentin pour ce micro-trottoir en forme de soulagement pour Cyril qui a donc appris que s'il était de droite, c'est uniquement parce qu'il était vieux. C'est un peu la conclusion de votre dernier...
On se
droitise avec le temps, c'est normal, a dit la personne interviewée. Lucas Jakubowicz, on vient d'entendre trois personnes de confessions différentes. Je reviens sur Daniel qui est juif. Est-ce que vous pensez que la communauté juive s'est droitisée? C'est quelque chose qu'on observe clairement ces dernières années?
En fait, c'est même pas pensez-vous, c'est que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Quand je regarde les bureaux de vote juif, effectivement, il y a un survote Zemmour. Mais vous parliez d'Alain Madelin. Avant le reportage.
Oui, pour rire.
Est-ce que vous savez combien il a fait dans la communauté juive d'après l'IFOP?
Et un score monumental.
Il a fait 45%. Dans des villes comme Sarcelles, dans les bureaux de vote juifs, ce que Jérôme Fourquet appelle chimiquement pur, il est aux alentours de 50% au premier tour. La présidentielle d'avant, c'était le Parti Socialiste qui était très nettement en tête.
Qu'est-ce que ça raconte, ça?
Bah, ça raconte deux choses. Soit ça veut dire que les juifs de Sarcelles en 7 ans, sont subitement devenus ultra-libéraux. Mais ça m'étonnerait.
Ouais.
Ou alors, il y a un affect religieux qui a joué. Et en fait, c'est l'affect religieux qui a joué.
Les catholiques, parce que je reviens sur François, que j'ai eu
oui.
à la fin du micro-trottoir. Est-ce qu'ils voient leur religion comme l'histoire de France? Et est-ce que c'est une erreur de le voir comme ça?
Alors, c'est pas moi qui vais expliquer le catholicisme à des catholiques. Hein. J'essaye d'être quand même un peu humble. Mais il y a quand même un paradoxe intéressant dans le vote catholique. Vous parliez effectivement de candidats comme Philippe de Villiers, ou Christine Boutin, ou plus récemment Éric Zemmour, qui ont vraiment fait campagne en s'adressant aux catholiques pratiquants. La France fille aînée de l'Église, en axant leur campagne sur des questions sociétales. Le jour J dans les urnes, ils font des scores rikiki, mais en plus de ça, ils sous-performent aussi chez les électeurs catholiques pratiquants. Ce qui veut dire qu'en fait, les électeurs catholiques pratiquants, quand ils votent, ils sont effectivement guidés par des affects religieux, comme les autres, mais leurs affects religieux ne va pas les inciter forcément à voter pour le candidat qui va mettre le plus en avant la foi catholique dans sa campagne. Ça, c'est un paradoxe chez les catholiques. Et du reste, j'en profite vraiment pour gommer un cliché. Les catholiques de France, c'est pas des réacs anti-mariage pour tous, c'est sens commun. Sens commun, c'est vraiment une infime minorité des catholiques de France.
Merci Lucas Jakubowicz. Le Zoom Zoom Test arrive, spécial parité en politique. On parlera du périscolaire ensuite. Et Manon Mariani nous racontera les sujets qui montent sur les réseaux sociaux en ce moment. Le temps de s'écouter Orelsan et Yamé, encore une fois, sur Inter.
Je me réveille à midi, la tête en vrac, la bouche en feu, l'impression d'avoir passé la nuit dans un cendrier. La première chose que je me dis, c'est plus jamais. La deuxième, c'est vivement 18h pour qu'on commence à les enquiller. Dans mon salon, il y a un mec que je connais vite fait, qui s'allume un truc d'une très mauvaise qualité. Donc je lui demande si je peux tirer. Je m'endors devant l'épisode, je me lève à 18h, donc j'y vais. Je suis la définition d'être en roue libre. C'est même plus des mauvaises habitudes, c'est la routine. La tisse, les clopes, la weed, les potes, les joints. Je dis que j'arrête comme jeu, 4 ans plus tard, j'en suis toujours au même point. Les balcons, les terrasses, les bouteilles, les flasques. Y'a toujours un mec défoncé qui m'a bizarre dans la glace. Nicotine sous angine, dans les poumons, dans les veines. Et je continue de répéter que ça m'aide à gérer mes problèmes. En gros, ça c'était moi avant. Normalement, maintenant, je suis pas là-dedans. Mais de temps en temps, le passé refait surface. Et j'entends cette voix qui me dit
hello, comment ça va? Moi ça va pas, je suis l'ancien toi. Tu croyais que j'étais parti, mais je suis toujours là, là, là. La 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 la. Pourquoi tu me calcules pas? La 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 la. Encore une fois, on se revoit, toi et moi.
Coup de stress, tu crames tout pour une puff. Je suis comme Sukuna, j'attends un faux pas. Le passé qu'on a, oublie-le si tu peux. Tu dis que c'était avant, arrête de mentir. Tapage et chant, non c'est juste le produit. Au lieu de rouler, tu scrolles à l'infini devant des vidéos de notre ancienne vie. Et quand ça marre, on la vit vire au gris. Le bonheur, le vrai, n'est pas dans les sourires. Regardez qui s'efface, on voit qui est qui. Même le boss final se fera kill.
Dès que je sors la tête de l'eau, il veut me faire replonger. Dès que je commence à m'élever, il veut me faire retomber.
Fait, tu veux pas vraiment les battre, tes démons.
Des fois, y'a rien d'autre à faire que de couper les ponts.
Comment couper les ponts? T'as regardé le plug. T'as gardé une taille au cas où il pleut. Tu déprimes, c'est pas la qualité. J'suis pas ton ennemi, j'suis ta vérité.
Zoom Zoom Zen, les meilleurs moments sur France Inter.
Moi, je n'ai rien contre le fait que des femmes écoutent le Zoom Zoom Test. Seulement, voilà, c'est l'heure du goûter. Alors, si les femmes se détendent en écoutant le quiz, comme dirait Laurent Fabius, mais qui va s'occuper des enfants? Justement, ce quiz sera consacré aux pires citations.
Je participe pas, voilà.
Aux pires citations concernant les femmes en politique. Jouons au Zoom Zoom Test, un quiz qui commence très fort avec pourtant un des grands artisans de la parité en politique, celui qu'on n'oubliera jamais ici puisque sa photo trône au-dessus du bureau de notre rédacteur en chef,
oui, Jacques Chirac.
Tout ça sur du Rubio Iglesias.
Vous le savez, quoique marié à Bernadette Chirac depuis 1956, le président Chirac n'était pas spécialement porté sur la fidélité, dont il avait une vision, on va dire, très souple. Il était aussi connu pour son côté grivois, volontiers potache, comme nous le confirme cette anecdote relatée par Xavier Panon, le biographe spécialisé dans la Chiracie, dans son livre « Chirac, quelle histoire » aux éditions de l'Archipel. D'après vous, à qui Jacques Chirac a-t-il un jour déclaré oh, « ça va, t'es pas jaloux Patrick ?» À Patrick Bruel, alors qu'il venait de pincer les fesses d'Amanda Sterz? À Patrick Ollier, le mari de Michel Alumari, qu'il venait d'embrasser sur la bouche? Ou à Patrick Balkany, après un sac à sec avec Isabelle?
Bruel.
Non. B, peut-être.
Michel Alumari.
Calocher Michel Alumari, l'ex de Cyril. Ça va très
Cyril
loin.
Cyril et Furax en régie.
Vous portez de graves accusations, j'espère que vous avez vraiment...
Vous l'avez lu dans le livre. Il n'y avait pas la langue.
C'est une bonne réponse, Quentin, bravo.
Ah,
oui.
Il n'y avait pas la langue.
Et oui, réponse. Mais alors, évidemment, Manon, j'imagine que l'anecdote vous étonne.
Ça fait plus que m'étonner, ça me trouve le cul.
Restez poli néanmoins. Nous sommes au début des années 2000.
J'ai changé de voix.
Oui, vous avez dit donc que vous avez perdu votre voix.
J'ai mué.
Nous sommes au début. Nous sommes au début des années 2000. Très très longtemps donc avant MeToo. À l'époque, le sujet n'est pas tant. Tiens, mais Michel Alumari était-elle consentante à ce baiser? Mais simplement, tiens, mais pourquoi Chirac a-t-il fait cette bonne blague entre guillemets? Réponse donc dans le livre de chevet de Cyril Chirac. Quelle histoire. Taquin. Le président Chirac voulait tout simplement énerver Patrick Ollier, le mari de Michel Alumari, qu'il trouvait, je cite, un peu trop macho. Alors que c'est vrai, Chirac. Lui, n'était pas macho pour un sou.
Mais il est toujours maire.
Preuve. Ça,
Si, il a ruiné la maison.
C'est vrai.
Ouais.
Vous suivez la politique locale de très près, Quentin.
Bah,
on me signale en régie qu'on s'en fout, Quentin. Vous espérez gagner un point supplémentaire? Il n'y en aura pas.
Vérifiez, parce que si c'est le cas, j'ai un point.
Chirac, lui, n'était pas du tout macho avec cette autre citation qu'on lui doit. Pour moi, la femme idéale, c'est la femme corrézienne, celle de l'ancien temps, dure à la peine et qui...
Oh là,
qui
je crains le pire.
Qui tricote en silence pendant que les hommes parlent politique?
Non.
Qui fait la cuisine pendant que les hommes jouent aux cartes? Ou qui sert les hommes à table, ne s'assied jamais avec eux et ne parle pas.
C'est...
Oh. la pire des trois, presque.
Bah, je veux dire B, mais je pense que c'est...
Le président Chirac dirait pareil. Réponse C, bravo Manon, bienvenue. Non pas en 1897, mais en 1997. Encore une confidence cocasse du président Chirac, pour qui la femme idéale était donc une sorte de double inversée de Sandrine Rousseau. Alors, nous étions au paléolithique de la parité en politique. Et ça n'a pas empêché Jacques Chirac d'être ce qu'il avait annoncé qu'il serait, à savoir...
Je serai le président de tous les Français. Les Français.
J'avais juste envie d'écouter ce merveilleux morceau. Mais attention!
Moi, c'est mon réveil, donc.
Nouvelle citation sur les femmes en politique. Qui a dit: on pourra considérer les hommes et les femmes égaux en politique le jour où il y aura des femmes ministres incompétentes. Est-ce Ségolène Royal, qui ne croyait pas si bien dire? Françoise Giroud, qui ne verra pas son rêve exaucé puisqu'elle sera déjà morte quand Marlène Schiappa sera nommée ministre? Ou Jacques Chirac, parce qu'il ne peut pas y avoir de questions dans ce quiz sans Jacques Chirac.
J'ai dit avant.
B, alors. Je vais dire autre chose.
C'est une bonne réponse, Quentin. Bravo, bravo. Répondez, cette phrase célèbre, on la doit à Madame Françoise Giroud, cofondatrice de L'Express et qui fut également secrétaire d'État à la condition féminine. Entre Schiappa, Montchalin et Ramayad, on peut dire qu'elle avait vu juste la vieille, vient de lâcher Cyril en régie, toujours chic.
Va.
Mais
vrai.
Poursuivons. Sur le sentier glissant de la misogynie en politique, d'après vous, Manon Quentin, qui a eu ces mots? À vrai dire, aucune femme moche ne peut réussir en politique. Pour réussir en politique, que l'on soit un homme ou une femme, il faut avoir une capacité à convaincre. Convaincre, c'est séduire, donc il vaut mieux être bien, physiquement. Ah. Est-ce l'inénarrable Patrick Balkany? L'impayable Edith Cresson? Ou le désopilant Gérard Larcher?
Oh, c'est dur.
C'est Larcher,
non.
Allez.
B, Cresson? C'est Cresson qui a dit ça?
Vous imaginez Gérard Larcher demander à quelqu'un d'être impeccable physiquement pour réussir en politique? C'est une bonne réponse de Quentin, Manon. Mais oui,
d'accord.
Quentin.
Je voyais pas Edith Cresson dire ça non plus.
Autre époque, autre mœurs, dirons-nous, pour l'excuser. D'autant que, rassurez-vous, Manon, côté sexisme, les hommes gardent toujours une longueur d'avance, même ceux qui se considèrent comme des progressistes. Ainsi, d'après vous, qui a déclaré un jour « J'ai tenté de promouvoir des femmes au maximum au sein de mon cabinet, bien que nos dossiers soient très techniques ». Est-ce que c'est Léon Blum en 1936, Stéphane Le Foll en 2015 ou François Bayrou en 2027? En 2022, plutôt en 2017.
C'est allez Bayrou.
Eh bah oui. B. Ouais, moi je dis B.
C'est fou. Vous prenez toujours le contre-pied de Manon. Ouais. Et ça vous réussit. C'est une bonne réponse, Quentin. Stéphane Le Foll, alors ministre de l'Agriculture dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, avait eu cette petite phrase. Oui, il avait eu le courage de nommer des femmes dans son cabinet alors que les dossiers étaient pourtant très techniques, Manon. Attention à ne pas l'accabler, c'était encore un propos sorti de son contexte pour le jeter en pâture aux féminazis, alors qu'il avait immédiatement enchaîné avec cette phrase. S'agissant du sexisme, il faut être continuellement vigilant. Dans la même interview. Victoire de Quentin. Bravo Quentin.
Et merci. Vous dites ça comme ça?
Ouais, victoire d'un homme, comme d'habitude.
Pourquoi les hommes peuvent...
Merci à tous.
Alors, certainement pas comme d'habitude, Manon, parce que si on rappelle votre nombre de victoires...
Merci, oui.
Et bonjour Yaël Amsalem Mingui.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi, Yaël. Vous êtes sociologue chargée de recherche à l'Institut National de la Jeunesse et de l'Éducation Populaire, l'INJEP. Depuis quelques mois, des signalements se sont multipliés à l'encontre d'animateurs de temps périscolaire. Un numéro de complément d'enquête fin janvier a fait l'effet d'un électrochoc pour les parents d'élèves. Vous sortez aujourd'hui une étude intitulée « Idées reçues sur l'animation jeunesse » aux éditions Le Cavalier Bleu en collaboration avec l'INJEP, un ouvrage que vous avez dirigé avec Hugo Bréant et Emmanuel Porte. Au départ, pour tout le monde, même j'allais dire pour ceux qui ne connaissent pas le périscolaire, mais même quand on est parent, on ne connaît finalement pas si bien que ça le périscolaire, c'est quoi le temps périscolaire? Qu'est-ce qu'on y fait? Est-ce que c'est homogène dans toutes les écoles ou pas du tout?
Alors le périscolaire, déjà, c'est ce qu'il y a dans la journée d'un enfant qui ne fait pas partie de l'école. Et l'extrascolaire, c'est ce qui se passe pendant les vacances et l'encadrement des vacances des enfants. Le périscolaire, il ne s'organise pas de la même manière selon les communes. Il y a du périscolaire parfois qui commence à 7h du matin, qui s'arrête à 8h30, et puis ensuite qu'ils ont classe. Ensuite, il y a la pause méridienne, donc la pause cantine. Mmh. La cantine fait partie du périscolaire. Ensuite, ils ont classe et elles ont classe. Mmh. Et puis ensuite, il y a effectivement 4h30, 15h30, ça va dépendre de l'organisation des journées des enfants, le périscolaire jusqu'à la fin de la journée, qui peut s'arrêter à 18h, à 18h30, voire à 19h, donc, selon les communes.
Qui est dans l'enceinte de l'école, le périscolaire.
Qui est tout le temps, enfin la plupart du temps, mmh. dans l'enceinte de l'école, alors que l'extrascolaire peut se passer dans l'école ou en dehors des écoles, dans des espaces d'animation.
Donc on a une équipe qui prend le relais sur les professeurs d'école.
Oui, c'est pas les mêmes.
Alors voilà, c'est ça. Il y a, en fait, historiquement, les enseignants étaient aussi des animateurs. Enfin voilà, on voyait une bascule, hein, notamment avec le côté militant des enseignants et puis voilà, le côté éducatif et tout ça. Et là, maintenant, on a des animatrices et des animateurs, essentiellement des animatrices qui vont s'occuper des enfants en dehors des heures de classe, finalement. Elles vont prendre en charge ce temps, elles vont accompagner les enfants. Au début, on appelait ça des gardiens. Après, on a appelé ça des moniteurs et des monitrices. Et maintenant, on est sur des animateurs et des animatrices. Et donc, tous ces temps, c'est des temps qui ne sont pas des temps scolaires et pour autant sur lesquels on envisage, on investit, on projette de l'éducation, des attentes pédagogiques, des attentes de formation, des attentes d'activité, sans pour autant toujours en donner les moyens.
Yael, vous dites qu'historiquement, les instituteurs étaient très investis dans l'éducation populaire, mais un retrait s'est opéré dans les années 80. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, en fait, historiquement, oui, les enseignants, ils ont été et d'ailleurs déchargés en partie d'une partie de leurs activités d'enseignement pour investir, après la Libération, le champ du périscolaire, de l'animation et en fait plus largement de l'éducation populaire. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a vu se monter des grandes associations, enfin vraiment le secteur associatif a été dynamisé par cette mise en disponibilité des enseignants et des enseignantes. Et puis, s'est posée la question de la dissociation de l'animation et de l'école, hein, qui est une question qui traverse le temps au final, et avec une spécialisation finalement, et une distinction et une forme parfois de hiérarchisation entre des temps qui sont les temps de l'enfant dans la journée, mais qui seraient des temps légitimes d'apprentissage, l'école, et des temps sur lesquels est-ce qu'on les garderait ou est-ce qu'on leur apprendrait des choses, voilà, sont mis en question.
Je ne sais pas si c'est complément d'enquête, on en parle plus ces derniers temps, ces affaires qui ont surgi à Paris. Le périscolaire fait peur ?
Alors, je pense qu'il y a un effet voilà, de contexte et de... Je pense que vous seriez juste la veille des vacances scolaires d'été, vous auriez des inquiétudes sur comment je vais faire pour avoir des nouvelles alors qu'il ou elle part en colonie de vacances. Enfin, voilà, confier ses enfants quand on est parent, enfin, c'est toujours la culpabilité, notamment des mères, qui posent la question en fait, de qui a les moyens de confier ses enfants, qui confie ses enfants et pourquoi on confie ses enfants. Et donc, ce qu'on va voir typiquement, c'est que les milieux les plus favorisés vont confier leurs enfants, y compris au périscolaire, mais en fait, on va voir que les enfants ont surtout beaucoup d'activités annexes à l'école et qu'en fait, c'est les enfants qui ont les agendas les plus chargés qui sont aussi qui vont réussir à performer les résultats scolaires. À l'inverse, les jeunes, les enfants des classes populaires, avec une partie des familles des classes populaires qui vont, elles, plutôt garder leurs enfants dans les foyers, pas pour souci économique, mais aussi parce que les mamans, elles travaillent moins ou pas aux mêmes horaires, ou voilà, elles s'organisent. C'est aussi des enfants qui vont être moins en connexion avec toutes les formes d'activités qui peuvent être proposées sur une journée scolaire.
Vous parliez des mères. Les mères se sentent plus coupables, sont plus concernées par cette culpabilité ?
Alors, je sais pas, il n'y a pas de données de recherche sur les mères plus que les pères, mais en tout cas, la charge éducative et la question éducative et l'organisation d'une journée d'un enfant, elle est d'abord gérée par les mères. Et ça, toutes les enquêtes, notamment l'enquête ELF, le montre bien et l'objectif bien. Et puis, peut-être, juste pour terminer, en fait, dans la formation BAFA, il y a depuis 2024 et en fait depuis 2023 et puis en amont par les associations, mais maintenant c'est formalisé dans les attendus de la formation BAFA, tout un volet VSS, donc violence sexuelle et sexiste, prévention, accompagnement, gestion, signalement, organisation. Donc il faut aussi laisser le temps que les formations aient des effets sur tous les animatrices et les animateurs qui entrent en poste. Malgré tout, il faut se rappeler, et je pense que c'est ça qui est important, c'est que l'essentiel des violences sexuelles qui sont faites sur les enfants sont d'abord dans le cadre familial.
Les réseaux sociaux, Manon, direction l'Italie, les Jeux Olympiques d'hiver.
Everyone's favorite. I might need to do my research. People were calling him a polar bear. That's not a polar bear.
Elle, c'est Amber Glenn sur TikTok. Elle se filme en train de montrer le dernier pull qu'elle s'est acheté avec un petit ours dessus. Pull qu'elle a amené dans sa garde-robe pour les Jeux Olympiques de Milan-Cortina. Car Amber Glenn n'est pas qu'une simple TikTokeuse. Elle est surtout une patineuse artistique américaine multi-récompensée, l'une des vedettes de son équipe. Et elle fait partie de ces sportifs de haut niveau qui partagent les coulisses de leur séjour aux Jeux Olympiques. Elle poste ses entraînements, ses soirées au village olympique ou le kit d'accueil qu'elle a reçu. Des contenus qui dépassent le millions de vues et qui propulse son compte TikTok sur le devant de la scène puisqu'elle est suivie par plus de 2 millions de personnes aujourd'hui. Et elle n'est pas la seule athlète olympique dans ce cas, il y a aussi la skieuse chinoise Elin Gu, le snowboarder norvégien Marcus Cleveland ou encore la patineuse de vitesse des Pays-Bas Jutta Leerdam. Les Jeux olympiques deviennent une machine à produire des contenus viraux et ce n'est pas dû au hasard.
C'est-à-dire ?
Et bien pendant longtemps, les contenus publiés par les athlètes étaient considérés comme une concurrence aux droits de diffusion télé que NBC Universal paye très très cher. Mais la chaîne a bien compris qu'il fallait qu'elle change son fusil d'épaule et qu'elle vive avec son temps, évidemment. C'est pour cette raison qu'elle a mis des moyens pour propulser ses contenus sur les réseaux. Elle a envoyé plus de 25 stars des réseaux en Italie. C'est plus que certaines délégations officielles. La Team USA dispose aussi de sa propre team spéciale composée de 23 personnes. La chaîne a aussi soutenu une douzaine d'athlètes avant les JO en les aidant à augmenter leur audience en ligne. Pour ça, ils ont reçu des kits dédiés aux réseaux sociaux avec des conseils sur les contenus les plus efficaces à produire et aussi des opportunités de collaboration avec d'autres marques de NBC. Et puis la chaîne diffuse aussi des contenus exclusifs sur ses comptes Meta, TikTok et YouTube. Et pour la première fois sur Reddit aussi, le groupe a même créé des comptes spéciaux pour les JO appelés NBC Olympics et ils cartonnent. Leur compte TikTok est par exemple suivi par plus de 4 millions de personnes.
Et puis j'imagine que ça permet aussi de faire découvrir des disciplines.
Exactement, des disciplines mais aussi des athlètes. Là où avant, on les voyait parler seulement pendant des interviews avec les réseaux, ils ont quand même une nouvelle caisse de résonance assez importante et ils peuvent pour ça remercier les Jeux Olympiques de Paris. Car c'est à ce moment-là que le Comité International Olympique a décidé de changer ses règles concernant les publications des athlètes sur les réseaux. Ils peuvent désormais filmer à l'intérieur de zones qui étaient protégées auparavant, comme le village olympique par exemple. Ils peuvent aussi publier jusqu'à une heure avant le début de leur compétition et partager du contenu issu de leurs entraînements ainsi que les backstage des cérémonies. Par contre, ils ont aussi des interdictions, ils peuvent pas faire de live stream, ils peuvent pas publier des vidéos de plus de 2 minutes, ni capturer des images de compétitions officielles, genre se mettre une GoPro et après le partager. À Paris, cette visibilité sur les réseaux avait permis de donner un coup de jeune et un coup de fun à l'image des Jeux Olympiques, on s'en rappelle. Le nageur norvégien Henrik Christiansen avait par exemple fait le buzz avec des vidéos sur les muffins servis au village olympique. La rugby woman américaine Ilona Maher s'était aussi fait connaître pour ses vidéos drôles pendant la compétition. Résultat, elle était passée de 640 000 abonnés sur TikTok à 3,5 millions quand même. Aux Jeux Olympiques, aujourd'hui, on ne vise plus seulement l'or, l'argent ou le bronze, et ben on vise aussi le million de vues.
Merci Manon. La chronique d'Étienne Lautrette, c'est juste après James Blake, Death of Love sur France Inter.
Empty-handed, like bees from blood. plastic flowers.
We can't follow you where you're going. We can't follow you where you're going. We can't follow you where you're planning to go.
Les meilleurs moments de Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël et toute sa bande.
4 ans de guerre en Ukraine, c'est aussi 4 ans d'émissions, de reportages et d'analyses médiatiques. Étienne Lautrette, vous nous avez préparé un zapping.
Salut tout le monde! Bienvenue dans Jackass! Waza! Aujourd'hui, on va montrer à cette chouineuse de Zelensky comment souffrir comme un vrai bonhomme! Pas vrai les mecs? Ouais! D'abord, je vais boire cul sec cette pinte de canard WC goût pain des Landes. Puis, je vais insérer ce crabe vivant dans mon urètre. Le tout déguisé en Freddy Krueger. Quoi, Steven? T'as oublié le chapeau et les griffes? C'est pas grave, on dira que je suis déguisé en Jack Lang! Après, je vais devoir suivre Mathieu Noël partout pendant une semaine et à la fin de chacun de ces déjeuners au restaurant, je devrais dire « Laissez, c'est pour moi !» Ça va faire mal. On va revenir hein, dans l'émission sur le conflit. Vous allez nous dire un petit peu comment s'en sortent les Russes. Hein. Vous allez nous dire ça, n'est-ce pas, Alain? Non, mais dites-le nous, c'est ça ma question. C'est tout de suite. Ah, ça a commencé. Ah, l'émission a commencé. Ah, mais fallait le dire. Ah, eh, dis donc, Jamy, tu sais comment on dit en russe « Journaliste français, ne tirez pas !» Tchou ! Pas du tout, Fred. Mais bon courage, tant pis, Marcel, on taille la route. On est de retour dans le Moscato Show. Et j'espère que t'as mis un slip propre, mon Pierrot, parce qu'on a du peine sur la paillasse. Alors restez bien avec nous jusqu'à 17h, parce qu'à un moment donné, on va revenir sur les bombardements de Kiev par l'armée russe. Je veux bien sûr parler du match d'hier entre le Dynamo et le CSKA Moscou. Une sacrée branlasse, mon Pierrot. Mais avant, c'est la question du jour. On a Jojo de Montauban qui nous demande « Bonjour Vincent, est-ce qu'il faut piquer les merguez avant de les faire à la plancha ?» Ça déconne. Si tu me piques les merguez avant de les cuire, je vais te faire bouffer ma trompette, quoi. Tout le monde a les merguez, c'est de les merguez. Si tu piques les merguez, tu ne dois pas bouffer les merguez. Il est con, ce type, ou quoi?
Nous sommes de retour dans Zoom Zoom Zen. Et c'est nonobstant une certaine jalousie que je donne la parole au véritable talent brut de cette émission, le truculent et néanmoins charismatique Étienne Lautrette, celui qui m'a écrit mon lancement.
Yes, merci Mathieu, c'est ma première chronique aujourd'hui et je dois parler de l'Ukraine, mais je vais plutôt parler du fait que c'est ma première chronique aujourd'hui et qu'il y a mon papy qui écoute. C'est une radio de vieux, je crois, non? Excellent. Et aussi, c'est pas très bien payé cette affaire, non? L'argent du service public, rentez-la. Moi, je dirais plutôt, quel argent? Marrez-vous, putain. De quoi, pardon, Mathieu?
Désolé de vous interrompre en si bon chemin, Étienne Lautrette, mais nonobstant l'envie d'écouter cette charmante voix qui émane de ce beau physique de talonneur, nous n'avons plus le temps, car oui, la radio, les chroniques, c'est comme la guerre. Ça passe vite! Excellent. Que d'imitation. Et on finit un peu plus avec une chanson qui fait partie de ma playlist, évidemment. Le temps qui court, version alliage, la meilleure version.
Franchement, il t'imite super bien.
Mais on ne peut pas se rendre compte quand on est imité. C'était bien, apparemment. Vous avez...
Ah, le non-obstant, c'est génial.
Ah oui, c'était bien. Les adverbes, c'est très bon. Et l'imitation de Moscato, en revanche, n'étant pas Moscato, j'adore. Merci, Étienne Lautrette, à la réalisation de ce florilège merveilleux. C'était Alicia Bulot. Lundi, on passe en mode rediff, le temps de prendre quelques vacances et on vous revient tout frais le 2 mars. Bon week-end à l'écoute d'Inter.
Zoom Zoom Zen.